Guérisseurs ou hommes de l'art, depuis toujours, les médecins sont vus et perçus comme des bienfaiteurs. Car ce sont eux qui nous soignent, qui réparent nos os cassés et nous soulagent des maladies. Alors s'imaginer un milieu insensible et brutal, ça semble un peu antinomique. Et pourtant, c'est bien le cas. Les violences des médecins sur leurs patients et leurs patientes se dévoilent de plus en plus ces dernières années. Mais en fait, est-ce que ces agressions ne seraient pas généralisées et concerneraient aussi les personnes internes au milieu? La réponse est oui. Et ces personnes, ce sont surtout les femmes. Selon un sondage Ipsos de 2023, sur 500 femmes médecins interrogées, plus de 8 sur 10 disent s'être déjà senties discriminées au cours de leur carrière en raison de leur genre. C'est dire. C'est ce sexisme moins médiatisé au sein de l'univers de la santé que je veux vous raconter dans cet épisode. Des bancs des facs de médecine au bloc stérilisé des hôpitaux.
Vous écoutez OPAC, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Sexisme en bloc, un épisode signé Fanny Gelb.
On voit notamment une femme à quatre pattes avec des couettes et un collier de chien en train de manger des ordures. On voit une femme nue allongée sur le sol qui semble morte et qui semble avoir ce qui s'apparente à du sperme sur elle.
Ces scènes plutôt grivoises, carrément graveleuses même, dépeintes par la coprésidente de l'association Oser le féminisme de la Haute-Garonne au journal La Dépêche en 2021, ce sont celles d'un tableau. Ou plutôt d'une fresque, soyons exacts. Et pas n'importe laquelle. Celle qui orne la cantine de l'internat de médecine de Purpan. C'est à Toulouse. Et ça a fait polémique à l'époque. Ce n'est pas la seule d'ailleurs. Rennes, Strasbourg, Paris, la plupart des centres hospitaliers universitaires, dits CHU de France, arborent dans leurs restos ces drôles de représentations. Alors, parodie grotesque, simple tradition ou sexisme ordinaire, la question de ces dessins jugés comme artistiques par certaines et certains internes divise. Retour à Toulouse. Décidément, ces femmes et ces hommes nus, attachés par des laisses ou en train de faire l'amour, c'est trop. En fait, c'est purement et simplement du sexisme et de la pornographie, selon l'avis d'assauts et de collectifs féministes. Et dire que ça agace, ça serait un euphémisme. Parce qu'en fait, cette fresque, c'est pas la première. Il y en avait déjà une affichée, toutes deux nues et de scènes sexuelles garnies, s'entend. C'était 3 ans avant et la direction l'avait faite retirer. Dans la foulée, la nouvelle était apparue. Et l'hôpital avait là aussi ordonné son retrait. On peut dire que ça a fait chou blanc. Alors donc, ces militantes et militants prennent les armes. Enfin, les armes de la justice. Le syndicat Sud et 2 associations saisissent le tribunal administratif de Toulouse en décembre 2021 pour faire retirer la fresque. Cette fois, ça marche. Encore heureux. Et le mouvement toulousain inspire. D'autres établissements de médecine demandent, à leur tour, que soient retirées les peintures murales. Et la boule de neige continue à dévaler la piste. Le 26 janvier 2023, c'est le ministère de la Santé qui demande la suppression des fresques licencieuses. Tolérance zéro contre les violences morales ou sexuelles à l'encontre des étudiants de santé, précise le communiqué. Soit. Malgré tout, il en subsiste encore aujourd'hui.
C'est facile de mettre une main aux fesses au bloc opératoire, mais ta blouse, elle est descendue et paf !
On te demande, t'es toute nue sous ta blouse ?
Tout est dans le sous-entendu, mais on ne dit pas, en fait, c'est un agresseur sexuel, ce médecin.
Quoi qu'il en soit, moi, ça a titillé ma curiosité, cette histoire. Déjà parce qu'on n'en parle pas, ou peu, du sexisme interne à l'univers médical, mais aussi parce que je me demande tout simplement d'où ça vient, en fait, cette tradition des fresques. Et pourquoi ça concerne uniquement les internats de médecine? Alors j'ai voulu explorer cette question. Et au commencement, il y a ce qu'on appelle l'esprit carabin. Les carabins, c'est le nom donné aux étudiants en médecine. Et ils sont caractérisés par un certain folklore qui tourne autour du sexe et du grivois, donc, comme on a pu le constater avec les tableaux dont je vous parlais. Donc je commence mes recherches. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas vraiment de documentation. Mais au bout d'un moment, Eureka, je me sens un peu comme Archimède. Bon, j'exagère. Mais quand même, c'est pas rien. Je suis tombée sur une thèse. tenues, fresques, internats et entre-soi, que reste-t-il de l'esprit carabin et du folklore de l'internat pour les internes de Rennes en 2016? Ça, c'est le titre. Et elle est signée par une certaine Élise Frey. Autant dire que ça m'a accroché l'œil. Alors j'ai décidé de la contacter, cette fameuse Élise Frey. Et chance du hasard, ou pas, il se trouve que le cabinet où elle exerce en tant que généraliste est à côté de Strasbourg, là où j'habite. C'est à Dachstein, très exactement.
Le départ est imminent. Bienvenue à bord du TER Fluo à destination de Molsheim. Il desservira Strasbourg-Rötting, Lingolsheim, Dachstein. Prochain arrêt, Dachstein.
Après. La médecine, ça reste un milieu avec des codes qui étaient encore masculins et où on défend beaucoup ce droit à la décompression ou ce droit à l'humour. Même moi, de temps en temps, quand il y a une blague de potage, des fois je ris aussi. Hein. Alors, on ne va pas annihiler toute forme de parole ou d'humour pour être politiquement correct, mais il faut que personne se sente en situation d'insécurité ou de dénigrement et on a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. Ces fameux carabins, ils datent d'il y a très longtemps. Ils faisaient les dissections, ils faisaient un peu la loi, la débandade dans toute la France, en fait. Et c'est parce qu'ils vivaient à l'hôpital aussi. C'était très sélectif d'avoir le concours de l'internat. Donc, ils avaient une vie où ils étaient carrément intégrés là-bas. Et c'était un peu comme, c'est un peu idiot de dire ça, mais un peu comme des conscrits, où il y avait des tas de rites masculins. Il faut que tu survives à ta garde, à l'autopsie, à ci, à ça. Et en fait, les femmes, elles sont venues plus tard. Elles n'ont d'ailleurs pas tout de suite dormi dans ces internats-là. Et en fait, il y a des codes de compagnonnage aussi. C'est pas que des blagues sur les femmes. Hein. C'est des blagues sur la mort, c'est des blagues sur surmonter la mort. Et parfois aussi, même les phallus ou les phallus dressés, c'est des symboles de vie. En fait, ils se vengeaient de cette misère et de cette mortalité qu'ils voyaient en célébrant la vie, le dépassement, l'outrance. Il y a certains codes qui restent, par exemple les fresques bien faites, elles sont un petit peu érotiques ou potaches, mais les vraies, vraies fresques, elles parodient les visages des chefs. Ça s'est peut-être perdu dans les mœurs, et du coup maintenant, certaines fresques, c'est juste érotique. Parfois, c'est sexiste. Moi, c'était en Bretagne, et il y avait une fresque assez magnifique peinte par les étudiants Beaux-Arts de Rennes, où en fait, vous avez une espèce de jolie fresque avec un drapeau breton, une harpe et tout. Et en fait, si vous faites gaffe aux détails de la harpe, bah, c'est un gland, en fait. Moi, ça m'a fait rigoler et ça m'a intéressée. Mais quelqu'un qui débarque comme ça, si vous rentrez en pensant manger à la cantine et ça vous tombe dessus, vous pouvez très certainement, peut-être à juste titre aussi, vous dire « Mais non, j'ai pas demandé à voir ça et on m'agresse avec ça. Bon. » Il y a un patient dans un état critique qui arrive au déchocage et on va dire au garçon « Allez, il faut que tu vois ça. » Alors que la fille, elle va faire les sutures ou parler avec celui qui a besoin d'un soutien psychologique. Donc on va parfois nous mettre dans des rôles genrés où on va être soi-disant plus doué pour la couture, les enfants et le blabla. Mais il y a quand même comme ça un peu... des comportements qui peuvent nous faire penser que soit on n'est pas qualifié, soit du fait qu'il y a un humour de potache ou assez insupportable dans certains milieux comme souvent la chirurgie. Pour mon vécu personnel, la chirurgie orthopédique par exemple, bah là vous vous dites, un, c'est un métier physique, deux, il faut être fort alors qu'en fait il y a l'arsenal technique, trois, je vais passer ma vie au bloc et j'aurai pas de vie de famille, et c'est des internalisations de notre rôle en tant que femme. Et ça peut parfois être aussi, et je ne veux pas subir ce genre de blague. Par contre, je vois depuis la féminisation qu'il y a des sujets qui n'étaient pas là et qui sont arrivés. Je pense que l'endométriose, c'est nous quand même. Hein. Et puis les violences faites aux femmes, c'est nous. Et l'attention portée aux violences envers les patients, je pense que c'est nous aussi. Quand j'étais interne ou externe, c'est jamais mes co-étudiants qui m'ont blessée, c'était des supérieurs hiérarchiques. au début, c'est un peu haut de toit que je m'y mette. Donc, certaines personnes parmi nos aînés ont vécu ce haut de toit que je m'y mette. Ils ont dû souffrir terriblement. Des gens victimes de violences qui reproduisent la violence. Une fois, j'étais externe encore dans un bloc. Il y a eu une greffe de rein qui était possible dans l'hôpital où j'étais en stage à l'époque. Et en fait, on m'a dit un peu rapidement, va descendre au bloc. Mais le chirurgien, déjà, ça a un peu mal commencé avec lui parce que je suis rentrée dans le bloc et il m'a dit, t'as la bretelle de ton soutien-gorge qui dépasse. Donc, je suis allée me rechanger. Je suis revenue là, il m'a dit, non, maintenant, c'est ta mèche. Donc là, ça commence déjà à monter parce qu'une infirmière pouvait me redresser ma mèche, mais personne n'osait bouger. Donc je ressors, je vérifie tout, j'y vais. Il me donne les écarteurs en main. Donc le patient était devant nous. Moi, je pose ma main pour tenir les écarteurs. Et lui, il se rapproche de moi et il me dit, j'espère que t'as pris ta pilule parce qu'entre toi et moi, ça va être chaud. Moi, je suis bloquée là, les écarteurs en main, le patient là et le chirurgien qui me colle. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Et je l'ai juste regardé en silence pendant une minute jusqu'à ce qu'il tourne sa tête et qu'il commence l'opération. Mais c'est désagréable d'avoir ça et c'est surtout désagréable de savoir qu'en fait, à côté, tout le monde est un peu, pas terrifié, mais ne va rien dire et que du coup, vous devez juste encaisser. C'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai eu peur parce que je me rappelle que quand il m'a dit, tu peux lâcher les écarteurs et donner à ton interne, ton collègue, Moi, après, j'ai tout vu en noir et j'ai dû sortir, donc je pense que j'étais quand même un peu stressée. Mais on n'en a jamais débriefé et jamais j'aurais pensé raconter à mon chef ou à un quelconque représentant étudiant parce que c'était tellement normal et c'était tellement fréquent qu'on ait ce genre de réflexion-là. En fait, je pense qu'on avait internalisé que comme c'était pas physique, il n'y avait rien à dire, mais c'était avant hashtag MeToo, hein. C'était en 2012.
En France, le mouvement MeToo commence à se structurer dans les médias et la politique. Une étape indispensable pour celles qui brisent le silence autour des violences sexuelles et qui sont souvent accusées de diffamation.
C'est évident que quand le focus de la société il est sur ça et qu'il nous dit que c'est inadmissible, c'est beaucoup plus facile de rassurer une étudiante, par exemple, qui vient et dit « il m'a regardé comme ci, comme ça ». Moi, ça m'est arrivé que quelqu'un me dise « il m'a regardé de haut en bas, il m'a regardé mon corps comme ça ». Et en fait, avant, ça aurait été « il t'a regardé, quoi ». Et là, moi, je dis « bah non, c'est pas normal, il t'a objectifié, je sais le dire ». Il y a quand même une attention portée à des faits qui sont pas physiques, qu'il n'y avait pas avant, et je pense que ça, c'est très bien. Parce que des ressentis et des impressions avant, on pouvait rien dire. Vous voyez, même quand le gars, il m'a fait la blague, à qui je vais le dire, il m'a fait une blague, mais personne n'aurait bougé. Alors qu'aujourd'hui, si je dis, il m'a dit qu'il m'a menacé, en fait, d'un acte sexuel, alors que je suis sa subordonnée quand je suis étudiante et que je ne peux pas m'échapper de l'endroit où je suis, ça serait presque une agression quand même, je crois, en fait. C'est assez bien d'avoir des mots pour qualifier la gravité des faits. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des poursuites pénales à tout bout de champ, mais juste lui dire, mais en fait, ça te mérite un blâme et tu recommences jamais.
Cette discussion avec Élise Frey, elle m'a fait me poser une autre question. Celle de l'imprégnation de l'esprit carabin dans le milieu médical. Est-ce qu'il en découle un sexisme conscient ou inconscient? Est-ce que ça participe à la banalisation des violences sexuelles? Et si oui, quelles sont les perspectives d'évolution pour y mettre fin? Alors pour ça, je me suis dirigée vers une autre médecin, la docteure Marie-France Oliéric.
Il y a probablement une certaine omerta.
Parce qu'en plus d'être la chef du service obstétrique du CHU de Thionville-Metz, c'est la présidente de l'association Oser donner des ailes à la santé. Elle, ça s'écrit E, 2LES. Cette association, ça fait 2 ans qu'elle existe. Et son but, c'est de sortir des schémas et des stéréotypes genrés qui sont toujours bien ancrés dans l'univers de la santé. Entre 2 patientes, après sa garde, elle accepte de m'accorder quelques minutes au téléphone.
Peut-être que ce qu'on s'est dit jusqu'alors, c'est que la santé, c'était bienveillant et qu'on soignait les autres et que c'est quelque chose qui pouvait pas arriver. Mais en fait, l'esprit carabin, qui a un rapport au sexe qui est particulier, dans la mesure où on a beaucoup parlé des fresques, en disant finalement, c'est des gens qui ont besoin, ils côtoient la mort, ils ont besoin de tout ça. Mais on peut prendre le problème dans l'autre sens et se dire, dans ces salles de garde où il y a des fresques, où il y a beaucoup de jeux sexuels qui sont décidés, est-ce que ça banalise pas ce que finalement les gens vont subir en sortant de la salle de garde?
Il a pu arriver du coup qu'on me demande quelle taille de bonnet j'avais sous ma blouse.
Archives brutes. 2023.
Si jamais on relève ce type de blagues sexistes ou de commentaires à caractère sexuel, les médecins vont s'en défendre potentiellement avec l'invocation de cette culture carabine.
quand on regarde les chiffres et qu'on voit que même en interrogeant les hommes, ils ont été très souvent témoins, mais qu'ils n'ont rien dit, c'est que quand même, cette omerta, elle existe encore, en fait. Ma génération en a beaucoup souffert, mais sans qu'on s'en rende compte. Je pense que c'est ça la base du problème au départ. C'est la non-prise de conscience des agresseurs. C'est de dire, bah, tiens, il y a un tel qui vient, qui me dit, bah, il m'a montré une vidéo porno et je m'en suis offusquée. Et de se dire que bah, l'agresseur, il ne trouve pas ça anormal de montrer une vidéo porno et de se dire, je me permets de faire ça, mais je ne m'en rends même pas compte, en fait. Et je suis persuadée, pour avoir discuté avec les étudiants en médecine, c'est moi qui accueille les internes quand ils arrivent. Et quand je parle de tout ça, je sens déjà que j'enfonce des portes ouvertes, en fait, et que bah, eux, la blague, le propos sexiste, le geste inapproprié, j'ai pas dit hein, qu'ils diront tous que... Mais je pense que c'est déjà moins normal que ça l'était il y a une seule génération, en fait. Et je pense que ce qui est très important, c'est sensibiliser ces jeunes-là. Un jour, ils deviennent plus grands et ils seront pas l'agresseur, en fait.
C'était Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Fanny Gelb en février 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo, réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.